Bonjour à tous, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir le docteur Orna Lando de Chalit avec nous pour parler pour Yedia d'un sujet très important, c'est le sujet de la douleur. Bonjour docteur.
Bonjour, bonjour, bonjour.
Alors, docteur Orna, vous êtes originaire de Genève, vous exercez en Israël depuis plus de 30 ans et vous êtes médecin anesthésiste et vous êtes une grande spécialiste du traitement contre la douleur en Israël. Alors, on sait qu'en Israël, on est bien avancé dans ce domaine-là. On parle beaucoup du cannabis médical, par exemple, aujourd'hui, hein, qui est devenu, qui est utilisé maintenant par les médecins en Israël, entre autres par les médecins antidouleurs. Est-ce que vous aviez reçu une formation particulière sur la douleur, sur la souffrance humaine, sur comment apaiser la souffrance lors de vos études? Comment ça s'est passé pour vous? Comment êtes-vous arrivé à cette activité professionnelle?
Alors, c'est une très bonne question par rapport à la souffrance à l'université. C'est vrai que nous n'avons pas traité les choses là sous cet angle-là, mais pendant ma formation en anesthésie, donc une des bases importantes de l'anesthésie, c'est le traitement de la douleur. Comme vous le savez peut-être, l'anesthésie, c'est à la fois la perte de conscience, le coma artificiel et le traitement de la douleur pendant l'intervention, bien sûr, mais aussi après l'intervention. Et petit à petit, au cours des années, on a commencé à traiter la douleur avant l'intervention pour éviter que le patient ne souffre après. Et les cliniques de la douleur sont arrivées un peu plus tard grâce aux anesthésistes qui avaient déjà les armes pour s'occuper de la douleur, notamment grâce aux différentes piqûres, injections ou blocs neurologiques pratiqués, comme la péridurale par exemple, qui est un bloc. En fait, on bloque l'impulsion neurologique qui vient de la périphérie vers le cerveau. Et on a sorti la péridurale de la salle d'accouchement, de la salle d'opération, pour l'emporter en clinique de la douleur et l'utiliser par exemple pour les douleurs de hernie discale, etc. Donc le cheminement est assez logique depuis l'anesthésie vers la clinique de la douleur. Voilà, c'est un peu l'historique des traitements de la douleur. Les anesthésistes ont été les pionniers, ils ont été rejoints après par les psychiatres, etc., puisque la notion de douleur est complexe.
Et en Israël, alors justement, quand vous avez commencé à exercer ici, est-ce que vous avez trouvé des chercheurs, par exemple, qui ont travaillé spécialement sur cette notion de souffrance et de la douleur corporelle? Est-ce que vous êtes, comment vous êtes encore plus spécialisé, je crois, sur place?
C'est vrai qu'en Israël, nous avons été les pionniers pour plusieurs choses. Tout d'abord, la formation. Les médecins ont commencé à avoir une véritable formation de la douleur. C'est une formation de 2 ans qui apparaît après une première formation. Il faut d'abord avoir été formé en autre chose, souvent l'anesthésie, comme je le disais. Et Israël a été parmi les premiers pays européens, entre guillemets, à avoir une formation. Par la suite, elle a été un exemple, donc la formation israélienne, un exemple dans différents pays en Europe, dont la Suisse, par exemple, qui a
Ah oui.
commencé plus tard qu'Israël à avoir une vraie formation de la douleur. Absolument. Et un autre domaine dans lequel nous avons été pionniers, c'est le domaine de la recherche sur le cannabis médical. On a perdu récemment un grand chimiste ou biochimiste, professeur Meshulam, qui a découvert les différentes molécules du cannabis. Donc la recherche a vraiment été, Israël a été en avant-garde de la recherche sur le cannabis.
Alors justement, pour refaire un petit peu le lien entre la médecine, ce travail antidouleur que vous faites et le judaïsme, alors je voulais vous citer une phrase de Lévinas, du philosophe Emmanuel Lévinas, qui dit: l'épreuve suprême de la liberté n'est pas la mort, mais la souffrance. Et c'est à cette épreuve de la souffrance que médecins, infirmières ou infirmiers et toute personne humaine concernée ont à répondre en réalité. Ça se trouve dans le célèbre livre d'Emmanuel Lévinas, Totalité et Infini. Alors, on a l'impression en fait que le médecin, il a deux fonctions. Il doit soigner, mais il doit aussi éviter ou traiter la douleur, éviter que le patient ne souffre.
C'est vrai, souvent quand, enfin souvent, toujours quand un patient arrive, par exemple, en clinique de la douleur, où on doit être très, très pratique, par exemple à la Coupatrolime, il m'arrive de voir 30 patients par jour. Donc, je dois rapidement à la fois trouver le diagnostic, donc traiter, trouver le diagnostic et en même temps trouver des réponses à la souffrance. Et ce n'est pas toujours en parallèle. Si je prends quelque chose de très très commun, par exemple si on fait des radios ou un scan chez les gens dans la rue, comme ça au hasard, on peut voir qu'un grand nombre a des hernies discales visibles sur le scanner, mais ne souffrent pas, n'ont pas de complaintes de douleur. Par contre, on peut voir au contraire d'autres qui ont un scanner plus ou moins normal, mais qui souffrent, qui ont une véritable souffrance. Et il faut absolument traiter les deux. C'est tout à fait vrai. Oui. Un autre exemple de maladie que beaucoup de personnes connaissent malheureusement, qui est la fibromyalgie, ou toutes ces maladies qu'on appelle fonctionnelles, où on fait des examens et des tests et tout est normal, tous les tests, on pourrait peut-être dire jusqu'à présent, sont normaux, mais il y a une très grande souffrance chez le patient et on traite la souffrance. On ne traite pas la maladie, on ne traite pas les radios, on ne traite pas le CAT scan, on traite la souffrance.
Alors, si on cherche un petit peu, si on fait une petite recherche dans les textes anciens et dans les textes sacrés, on s'aperçoit eh bien que l'anesthésie existait. En tout cas, elle a été. On y fait allusion dans le texte parce que lorsqu'on parle de Adam Harishon, hein, à qui Dieu doit créer quelqu'un à ses côtés, eh bien, on dit dans la Genèse que Dieu a jeté un sommeil sur Adam pour pouvoir lui extirper la côte avec laquelle il a fabriqué Chava. C'est une forme d'endormissement en fait. Et les sages expliquent que c'était une forme d'anesthésie en fait. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ah, je trouve ça magnifique, je ne le savais pas. Donc, en fait, l'anesthésiste, c'est le plus ancien métier du monde, alors, finalement, c'est lui.
Et en fait, c'est Dieu qui est le premier anesthésiste de l'histoire et donc de la médecine, absolument. Alors, pour revenir à cette notion de douleur et de souffrance, on sait aussi que dans le judaïsme, eh bien, on doit tout faire hein, pour soigner, pour traiter la souffrance. En tout cas, on n'y est pas du tout indifférent. Et on parle beaucoup d'empathie. Est-ce que vous avez le sentiment que les médecins devraient développer peut-être cette qualité qui est celle de l'empathie, ou est-ce que c'est une qualité naturelle peut-être chez un médecin lorsqu'il est face à un patient?
C'est extrêmement important. Le rapport avec le patient, le traitement et les résultats sont vraiment dépendants de je dirais qu'il y a un certain ordre dans les choses. Il faut d'abord écouter. Il faut croire au patient aussi. C'est pas parce que la radio est normale qu'il n'y a pas de souffrance si on fait le distinguo. Donc, le patient a besoin d'être écouté, il a besoin d'être cru, et ensuite, on peut de là commencer à faire un traitement beaucoup, beaucoup plus efficace. Alors, c'est peut-être ça l'empathie, c'est d'écouter et surtout de le croire. Je pense que l'important, c'est que le patient sente qu'il est cru et qu'il est compris. Donc oui, c'est peut-être des sous-groupes de l'empathie. C'est très important, bien sûr, bien sûr.
Est-ce que vous avez le sentiment que vous devez prendre le patient dans sa globalité, justement pour être empathique, c'est-à-dire savoir l'écouter, regarder tout ce qui se passe autour de lui, tout ce qui se passe dans son corps, pas seulement sur l'organe malade? Est-ce qu'on pourrait avoir une approche holistique, comme on dit aujourd'hui, du patient pour avoir plus d'empathie?
Je crois que la première chose, c'est de laisser le jugement dehors. Je pense que ça bloque complètement. J'ai pas toujours le temps de m'adresser à la personne en entier, même si je suis consciente que c'est absolument nécessaire. On fait ce qu'on peut. C'est pour ça que les cliniques de la douleur dans les hôpitaux sont multidisciplinaires. Mais à ce propos, j'aimerais vous raconter quelque chose de tellement mignon. C'est un patient de 92 ou 13 ans qui est arrivé il y a quelque temps et qui m'a dit, écoutez, docteur, j'ai l'épaule gelée, j'ai le genou qui bloque, et j'ai le dos coincé et moi-même, je ne me sens pas très bien. J'ai trouvé ça tellement mignon.
Qu'est-ce que vous lui avez répondu, docteur?
Vous savez, traiter quelqu'un, c'est parfois comme un jeu de domino. C'est très complexe, c'est très beau comme dynamique. Je crois que j'ai commencé par lui traiter, je lui ai demandé ce qui lui faisait le plus mal. Et je crois que je lui ai fait d'abord une piqûre à l'épaule. Et quand il a vu que je pouvais le soulager grâce à une piqûre, lui soulager l'épaule, il m'a fait confiance. Il a vu que je pouvais l'aider. Et donc, on a commencé à parler. Et non, je veux dire que c'est quelqu'un que j'ai vraiment pris sous mon aile, vu son âge. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui ont beaucoup vécu. Et de là, à partir de cette piqûre un peu anodine, pour moi qui ai l'habitude d'en faire, on a pu ouvrir comme ça une confiance et un dialogue thérapeutique. Donc, c'est complexe.
Alors justement, quand vous avez face à vous un patient qui vient pour un traitement antidouleur, comment vous faites? Vous d'abord vous estimez si la douleur elle est honnête, elle est vraie, ou est-ce qu'elle est subjective? Comment vous mesurez le taux de la douleur chez le patient en face de vous?
Bon, c'est une très très bonne question, évidemment. C'est pas toujours facile, hein. C'est pas toujours facile car, comme je vous ai dit, pas tous les examens ne montrent une pathologie, hein. Mais je crois au patient. Comme je vous l'ai dit, je mets le jugement dehors, je crois au patient, je veux l'aider. Il a besoin d'aide puisqu'il est là, il est quand même venu, il a besoin d'aide. Et là, ce qui est très important aussi, c'est de lui donner un petit peu, essayer de le sortir de la victimisation, de lui montrer qu'il peut prendre les choses en main dans une certaine mesure, parce que dès qu'on sent qu'on gère la douleur et qu'on n'est pas géré par la douleur, je sais que ça apparaît comme un slogan, mais dès qu'on donne la capacité au patient de prendre en charge certaines choses, il se sent plus fort. Nous, on a trois armes, en gros, et pour toute douleur que ce soit. La première, c'est les piqûres. La deuxième, c'est les médicaments. Et la troisième, c'est le cannabis médical. Donc, en général, je lui explique ces trois possibilités qui déjà lui donnent un petit peu d'espoir qu'il y a quelque chose à faire. Donc, vous voyez, c'est fait d'espoir, c'est fait d'autonomie de gestion de la douleur, c'est fait de beaucoup de choses. Et ensuite, en discutant avec le médecin, pardon, avec le patient, on voit ce qui lui correspond le mieux.
Alors justement, vous avez cité les trois armes que vous pouvez utiliser, les trois outils que vous pouvez utiliser pour soulager le patient.
Oui.
Les piqûres et les médicaments, on connaît depuis longtemps, on s'en sert depuis des années. Le cannabis médical, c'est très récent. Est-ce que vous voyez une différence entre ces deux types de traitements? Est-ce que par exemple les médicaments classiques, l'allopathie, servaient plus à assommer le patient, le faire dormir pour qu'il oublie sa douleur? Est-ce que le cannabis médical fait réagir le patient de la même manière, ou au contraire agit plus sur le soulage la douleur mais n'assomme pas le patient? Comment est-ce que vous pourriez définir pour nous la différence entre l'allopathie classique et le cannabis médical?
Alors, la première chose qui est très importante, c'est que dans l'allopathie classique, on a les opiacés, la morphine. Ce n'est pas le seul médicament. Il y a quatre groupes de médicaments, mais disons la morphine. Hein, le problème avec la morphine, que c'est très addictif. On en parle beaucoup depuis que les États-Unis ont subi leur grande crise des opiacés. On en parle énormément. Donc, ce sont des mauvais médicaments à long terme. À long terme, à moins de savoir le gérer, de le prendre uniquement quand c'est nécessaire, une à deux fois par semaine, etc. Et parfois, on est obligé d'expliquer aux patients que c'est comme ça qu'on va gérer sa douleur. Le cannabis n'est pas addictif, beaucoup moins. Les études qui ont été faites en Israël, d'ailleurs, montrent que seulement 10% de patients deviennent vraiment addicted au cannabis. Donc, c'est une C'était vraiment d'une grande importance. Maintenant, dans le cannabis médical, on a tellement de genres différents, de concentrations différentes. En gros, on a deux groupes étudiés. On a le THC, qui est psychoactif, qui provoque également une espèce de recul de la douleur. Il agit au niveau central, au niveau du cerveau. Et là, souvent, les patients disent, vous savez, j'ai mal, mais ça ne me dérange pas. Donc, ça, c'est le THC. Et on a par contre le CBD, qui d'ailleurs est complètement légalisé dans les pays de l'Union européenne, mais pas en Israël, hein. Le CBD qui, lui, agit différemment. Il relâche les muscles, il a un effet anti-inflammatoire et il relâche le patient. Il n'agit pas du tout ou très très peu au niveau central en provoquant un effet psychoactif. Alors ensuite, tout dépend des concentrations parce qu'on peut avoir des patients qui prennent des concentrations élevées de THC qui sont complètement, comme disent les Israéliens, qui sont mastoul, qui sont KO. Donc pour ça, on ne peut pas dire que le THC, que le cannabis les rend moins KO. C'est toute une question de concentration entre ces deux substances.
Et comment
Oui.
les patients en Israël ont accepté de se faire traiter avec du cannabis? Est-ce qu'ils avaient de l'appréhension? Est-ce que certains vous ont dit, ah non, non, ça c'est de la drogue, j'en veux pas? Ou est-ce qu'au contraire, vous avez senti qu'ils étaient prêts à essayer quelque chose de nouveau justement pour être soulagés?
Alors, quand on a mal, on veut vraiment se débarrasser de la douleur, on est d'accord de tout faire, mais c'est vrai que les patients plus âgés le voyaient moins bien. Maintenant, on a déjà un recul d'une quinzaine d'années. Alors, c'est un petit pays, les gens connaissent quelqu'un qui en prend, même les personnes âgées aujourd'hui en demandent. Il y a beaucoup moins de... Et c'est culturel, ça c'est intéressant. Il y a certains pays, par exemple, ceux qui viennent de Russie. Comme ça, et même les médecins aiment beaucoup moins le cannabis que les autres médecins.
Donc c'est
Mais aujourd'hui,
culturel,
c'est
oui.
quand même, c'est culturel, oui, c'est culturel. Mais aujourd'hui, c'est très en demande, quel que soit l'âge du patient.
Est-ce que vous voyez une différence entre les hommes et les femmes à ce niveau-là? Est-ce que vous sentez que les femmes sont plus sensibles à la prise de cannabis médical que les hommes ou pas?
Bonne question. Alors, d'un côté, les statistiques montrent que les femmes, il y a plus de femmes qui souffrent de douleurs chroniques que d'hommes. Vous savez que des grandes études en Europe ont montré que 20% de la population souffre de douleurs chroniques. Hein. Donc, c'est énorme. Et sur les 20%, dans ces études, on a montré que les femmes, il y a plus de femmes que d'hommes. Donc, d'un côté, on a ça. De l'autre côté, je pense que les hommes en Israël fument plus de cannabis. Je vous parle pas du médical, là. Je vous parle du
De la
cannabis
drogue.
récréationnel. Oui, voilà, récréationnel, comme appellent ça les Américains. Je pense que les hommes plus à ce niveau-là depuis très jeune. Et donc, je pense, dans mon cabinet, j'ai l'impression que c'est moitié-moitié.
Est-ce que les maladies psychiques ou psychologiques, je pense parce que nous sommes en Israël au stress post-traumatique par exemple, peuvent être traitées avec des traitements antidouleurs?
Ah oui, par le cannabis médical, absolument. C'est une des indications en Israël pour recevoir la licence pour le cannabis. C'est le post-trauma, absolument. Ça les aide, hein, vraiment. Ça
Vous
les,
voyez des
ils peuvent
résultats?
mieux dormir. Oui, moi je trouve qu'au niveau des résultats, ils sont excellents avec le cannabis médical. Malheureusement, ils ont souvent besoin de dosages plus importants que les autres patients, mais ils sont tellement en souffrance qu'on leur donne évidemment. Ils le méritent. Je veux dire, c'est vraiment des gens qui ont vécu des choses horribles et ça les aide. Oui, c'est très efficace. Absolument.
L'homme est plus résistant à la douleur que la femme? Ou c'est un
C'est ce qu'on
cliché?
dit. C'est ce qu'on dit dans les livres. Mais j'en suis pas si sûre. Sur le plan clinique, je n'en suis pas si sûre. Mais si, c'est ce qu'on met. Oui, les hormones, les œstrogènes, etc., font qu'au niveau, vous savez, c'est toute une question de chimie, la douleur, c'est toute une question de neurorécepteurs. Évidemment que les hormones influencent nos neurorécepteurs. Donc, dans les livres, oui, mais je n'en suis pas. pas si sûre dans mon cabinet. Non, non.
Alors aujourd'hui, quand on est souffrant, lorsqu'on a une douleur physique et qu'on va voir le médecin, on est écouté par rapport à il y a 20 ans ou 25 ans où tout était psychosomatique. Vous avez le sentiment que la prise en charge a changé?
Ah oui, ah oui. Je pense que les choses ont beaucoup progressé. Oui,
Un
oui.
patient est pris au sérieux.
Un patient est pris au sérieux. Les cliniques de la douleur existent un peu partout. Vous savez, vous disiez que je viens de Genève. Il y a une trentaine d'années, il n'y avait pas de clinique de la douleur à Genève. Là aussi, c'est culturel, hein, ça ne se fait pas de se plaindre. À Genève, on ne se plaint pas. On a honte d'avoir mal, on a honte d'être faible, on a honte de se plaindre. Et maintenant, il y en a. Maintenant, il y a des cliniques de la douleur. Oui.
Et chez les enfants, comment est-ce qu'on traite la douleur d'un enfant qui ne sait pas l'exprimer?
Ah, les tout petits, les bébés?
Par exemple, les bébés et puis même les petits-enfants, quand ils ont mal, ils ne savent pas dire où ils ont mal. Par exemple, ils n'arrivent pas à définir la douleur. Ils disent j'ai mal, mais sans savoir comment le faire comprendre.
Alors, c'est intéressant votre question parce que il y a encore une trentaine d'années, à l'époque, c'était tout nouveau de donner pendant l'anesthésie des antidouleurs pour la période post-opératoire. On disait que les enfants n'avaient pas, et c'est pas si vieux que ça, c'est il y a 30 ans, on disait que les enfants, leur système neurologique n'était pas encore très développé. La preuve, les circoncisions, il y a des articles absolument sérieux dans le Lancet, etc., qui disent la preuve, la circoncision qu'on fait à l'âge de 8 jours, on n'a pas d'anesthésiste, ça c'était à l'époque. On était persuadés que les enfants n'avaient pas encore de douleur ou ne pouvaient pas ressentir la douleur.
C'est incroyable
Alors
ça.
même là, les choses ont... Oui, c'est absolument incroyable. Les choses ont beaucoup, beaucoup, beaucoup changé. Les anesthésistes chez les pédiatriques ont beaucoup changé d'attitude aussi. Maintenant, on donne vraiment contre la douleur avant le réveil pour pas que le bébé ou le jeune gamin ait mal. Alors, on a les signes indirects de la douleur. On a le pouls élevé, la tension qui monte. On a des signes indirects de la douleur du système neurologique sans passer par la parole,
Le
même
langage.
en anesthésie, ouais, par le langage, même pendant l'anesthésie. Quand on donne une anesthésie trop légère, enfin, ça dure que quelques secondes puisqu'on est là pour régler le problème. Le patient peut larmoyer, les pupilles sont dilatées, le pouls monte, la tension monte. Donc on a les signes neurologiques de la douleur.
Et un enfant qui serait atteint d'une maladie grave comme un cancer, par exemple, est-ce qu'on peut lui prescrire du cannabis médical pour l'aider à supporter la douleur?
Oui, on donne dans des exceptions, on peut donner du cannabis à des enfants. Oui, j'imagine qu'un enfant avec un problème oncologique, certainement qu'on lui donnerait aussi du cannabis en plus de tout le reste. Oui.
Alors aujourd'hui, pour préparer le sujet, je me suis un petit peu penchée sur la question et j'ai cherché un petit peu dans le judaïsme tout ce qu'on pouvait trouver par rapport à cette notion de la souffrance humaine et de la douleur. Et j'ai trouvé quelque chose qui m'a un petit peu impressionnée et je voulais le partager avec vous. C'est que le mot en hébreu qui signifie l'humanité se dit Enosh. Et ce mot a la même racine que le mot qui veut dire la douleur physique ou la douleur morale, qui se dit anouche. Et je me suis posé la question, pourquoi est-ce que cette notion d'humanité, de l'homme, hein, l'homme avec un grand H, pourquoi est-ce qu'il était attaché si fortement? En fait, c'est comme s'il marchait avec cette douleur morale ou physique en permanence avec lui. En tout cas, il doit lutter toute sa vie contre cette douleur morale ou cette douleur physique. Est-ce que vous avez le sentiment que la douleur, c'est plus qu'une maladie, en fait?
J'ai l'impression, bon, ça c'est parce que j'aime positiver, j'essaye d'enseigner ça à mes patients, que tout est une occasion d'apprentissage, de... Souvent les patients changent de vie complètement, ils sont obligés de changer de profession. C'est sûr que la douleur et la souffrance est là, présente. j'ai pas envie de dire tout le temps, mais beaucoup, et que notre but en tant qu'être humain, c'est d'essayer de tirer de chaque chose un enseignement, de progresser. Oui, bah, c'est sûr. Oui. Dans mon cabinet, je ne peux pas vous dire le contraire. Ça fait vraiment partie de l'être humain, oui.
Et toute douleur doit être apaisée et traitée tant qu'on peut le faire avec tous les moyens qu'on a aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup, docteur Orna de Landau-Chalid, pour toutes ces explications et pour nous avoir un petit peu introduit à dans votre profession et dans votre art. C'est l'art de traiter la douleur, en fait, votre métier.
C'est vrai, c'est un art. C'est pas une science exacte parce qu'on a l'homme en face de nous. Et c'est vrai, c'est de l'art, oui.
Merci beaucoup, à bientôt.
Merci à vous. Au revoir.
Au revoir.